RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
Moudir Bouta, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, il avait tiré sur sa femme avant de la brûler vive. À suivre à Bordeaux, la correspondance de Noémie Loweller. Emmanuel Macron recevait ce lundi à l'Elysée le président libanais Joseph Aoun. Après la frappe israélienne de ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth, il a dit sa solidarité avec le peuple libanais. Nous entendrons le président français dans ce journal. Baisse des émissions de gaz à effet de serre en France l'an dernier. C'est bien, mais c'est trois fois moins que l'année d'avant. Alors comment faire baisser ces émissions? Nous verrons cela avec Stéphanie Schuller.
RFI.
Dans une dizaine de minutes, nous avons rendez-vous avec Dror Mishani, un écrivain israélien qui publie un journal dans lequel il raconte son quotidien depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Un témoignage pacifiste. Et puis le journal de l'Outre-mer. Manuel Valls arrive demain à Nouméa en Nouvelle-Calédonie pour entamer des négociations politiques entre indépendantistes et anti-indépendantistes.
24 heures en France.
La réclusion criminelle à perpétuité pour Mounir Bouta avec une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de sa femme. C'est la peine maximale dont il pouvait écoper. Le 4 mai 2021, ce maçon franco-algérien avait tiré au fusil dans les jambes de la victime avant de l'asperger d'essence et de la brûler vive. Un acharnement meurtrier destiné à exterminer qui a marqué profondément toute notre société, a déclaré l'avocate générale devant la cour d'assises. Depuis l'ouverture des débats ce lundi, Mounir Bouta affirmait qu'il voulait lui faire peur et non la tuer. Il pensait que sa femme lui était infidèle. À Bordeaux, Noémie Loweller.
À l'énoncé du verdict, Mounir Bouta est resté impassible, à l'image de son attitude pendant la grande partie de son procès qui se déroule depuis lundi à la cour d'assises de Gironde. Les jurés ont suivi en tout point les réquisitions du parquet. La réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire qu'il ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de peine pendant cette durée. L'accusé ayant été diagnostiqué paranoïaque, l'altération du discernement a été reconnue par les jurés sans pour autant entraîner de diminution de peine. Là encore, ils suivent l'avis de l'avocate générale. Elle parle d'un homme à la personnalité glaçante, calculateur, violent, dépourvu d'empathie. Elle souligne aussi la préméditation des faits. Le 4 mai 2021, Mounir Bouta s'installe à l'aube dans un fourgon qu'il a aménagé pour voir sans être vu. Il attend Chahinez Daoud une dizaine d'heures, lui tire deux balles dans les jambes, l'asperge d'essence et met le feu. Pour les avocates de l'accusé, c'est une peine lourde, trop lourde, qui ne laisse aucun espoir de sortie à leur client. Noémie Leweller, Bordeaux, RFI.
Le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle et cette tribune ce vendredi de près de 200 avocats. Ils appellent la justice à ne pas laisser la place au sexisme en audience et dénoncent les nombreuses attaques de l'avocate de l'acteur, à la fois contre les plaignants et contre leurs avocats. Le texte regrette l'absence de réaction de l'ordre des avocats face aux invectives de maître Jérémy Assous qui, je cite, s'en est donné à cœur joie en matière de sexisme et de misogynie. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur l'avenir politique d'un élu de Mayotte. Les sages valident l'inéligibilité avec exécution provisoire de cet élu municipal. Si on en parle, c'est que cette décision était surveillée de très près par le Rassemblement national, mais finalement, elle n'aura aucun impact sur Marine Le Pen. Victorien Villaume.
Le Conseil constitutionnel l'affirme. Rendre inéligible immédiatement un élu, même sans attendre le résultat d'un appel, est conforme à la Constitution. Mais en effet, cela n'a pas d'incidence sur Marine Le Pen, puisque dans leur décision, les sages se contentent de répondre strictement à la question posée qui concernait uniquement le cas des élus locaux. La chef de file du RN est une élue nationale. Ce dénouement était celui en tout cas auquel s'attendaient les proches de Marine Le Pen et les regards sont maintenant tournés vers lundi. À cette date, Marine Le Pen connaîtra sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. Le parquet requiert contre elle une peine d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire et elle pourrait être empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027. On va attendre lundi. Il n'y a rien d'autre à faire, balaye un député du parti d'extrême droite.
Victorien Villaume. François Bayrou était ce lundi au forum 2025 de Vigium, l'organisme français de lutte contre les ingérences étrangères. Le Premier ministre affirmait que la France était, après l'Ukraine, le pays le plus visé en Europe par les tentatives de manipulation venant de l'étranger. On peut en détecter des linéaments venant de Chine, on en détecte des interventions massives venant de Russie. Fin de citation. Le président Emmanuel Macron recevait de son côté son homologue libanais Joseph Aoun à l'Élysée. Il a fait part de sa solidarité avec le peuple libanais après la frappe israélienne de ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne affirme avoir visé un dépôt de drones. Emmanuel Macron qui a aussi dit son incompréhension face à cette violation du cessez-le-feu injustifiée selon lui.
Les prochaines heures nous permettront de clarifier la totalité de ces points, mais à ce stade, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'activité qui justifiait des frappes. Et donc il est absolument nécessaire que le cadre que nous avons défini, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Il n'a pas été respecté aujourd'hui par Israël, de manière unilatérale, et sans que nous n'ayons eu ni information ni preuve des faits générateurs ou du déclenchement. Fort de cela, nous allons continuer d'y travailler ensemble avec nos équipes. J'appellerai dans les prochaines heures le président Trump pour échanger avec lui sur ce sujet. Et j'aurai l'occasion d'avoir, dans les 48 prochaines heures, le Premier ministre israélien pour avoir, entre autres, un échange nourri sur ce sujet.
Emmanuel Macron. Hier et aujourd'hui à Paris était organisé le sommet contre la malnutrition. C'était le premier grand rendez-vous consacré au développement depuis l'annonce par le président américain du quasi-démantèlement de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Lors de ce sommet contre la malnutrition, États et donateurs privés se sont mobilisés. Plus de 27 milliards de dollars d'engagements financiers sur 4 ans ont été recueillis. Mais les organisateurs, comme les participants, n'ont pu que constater que cela ne suffira pas face au repli de l'aide internationale et donc particulièrement américaine. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, Afshan Khan, a souligné que les coûts pressants sur l'aide étaient évalués à 44%. À Cherbourg, dans le nord-ouest de la France, une enquête a été ouverte aujourd'hui pour outrage et actes d'intimidation. Elle vise le syndicat des jeunes agriculteurs qui a diffusé une vidéo présentée comme humoristique, mettant en scène le décès d'un agent de l'Office française de la biodiversité. Vidéo qui aurait été diffusée le 14 mars lors d'une assemblée générale des jeunes agriculteurs. Une vidéo qui cautionne une forme de violence que nous subissons depuis plus d'un an, estime la CGT Environnement, est très révélatrice de l'incompréhension d'une partie des agriculteurs du rôle et des missions de l'Office. Ce n'est pas aux usagers de payer la facture, a martelé ce vendredi la maire de Paris, Anne Hidalgo. La régie chargée de l'eau dans la capitale a porté plainte contre X pour pollution aux polluants éternels ou PFAS de son réseau d'eau potable. Objectif, que ce soit les fabricants de ces substances qui paient le surcoût de la décontamination, évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros pour la ville de Paris. De son côté, et plus largement, le gouvernement annonce qu'il va lancer des travaux pour mieux connaître les captages d'eau potable les plus fragilisés en France et mettre en place leur protection renforcée face aux pollutions et aux changements climatiques. 14 000 captages d'eau potable ont été fermés ces 40 dernières années, dont un tiers pour cause de pollution. Aujourd'hui, l'alimentation en eau potable de la France est assurée par un peu moins de 33 000 captages. On le disait hier, en France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de baisser l'année dernière. Mais cette baisse est 3 fois moins importante qu'en 2023. Un décrochage qui inquiète, parce que pour atteindre les objectifs que la France s'est elle-même fixés pour lutter contre le changement climatique, il faudrait au contraire accélérer la baisse des émissions. Alors comment y parvenir, Stéphanie Schuller?
Les deux secteurs les plus difficiles à décarboner en France sont les transports et le logement. Mais pour inciter la population à redoubler d'efforts, explique la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sur la chaîne TF1, ce n'est pas qu'une question de budget.
Puisque l'année dernière, on n'a pas consommé tout le budget qui était consacré à cette politique. C'est aussi une question de facilité pour aller vers ces dispositifs d'aide qui sont peut-être trop compliqués.
Simplifier et harmoniser les subventions disponibles ne suffira pourtant pas. Pour résoudre le problème, estime de son côté Anne Bringo, directrice de programme au réseau Action Climat.
Il faut aussi utiliser le levier réglementaire pour les ménages qui ont les moyens financiers de rénover leur logement ou de passer un petit véhicule électrique. Là, il faut passer vraiment à certaines formes d'obligations. Et en revanche, pour les ménages qui ont des bas revenus, qui n'ont pas accès à des travaux performants pour leur logement ou qui n'ont pas accès à l'achat d'un véhicule électrique, là, il faut des aides financières.
Lundi, un conseil de planification écologique aura lieu autour d'Emmanuel Macron. Les ONG réclament des mesures concrètes pour retrouver une trajectoire ambitieuse de baisse des émissions.
Stéphanie Schuller, François Bayrou et Elisabeth Borne relancent la réforme de la formation des enseignants. Objectif, répondre à la crise du recrutement, les concours ne font plus le plein. Le Premier ministre et sa ministre de l'Éducation étaient ce vendredi dans une école des Hauts-de-Seine. La réforme avait été présentée il y a un an par le président Emmanuel Macron, mais mise de côté après la dissolution de l'Assemblée nationale. Le principal changement de la nouvelle réforme, c'est que l'on pourra passer les concours dans l'enseignement à partir de Bac plus 3 et non plus Bac plus 5. Par ailleurs, pour relever le niveau des élèves français, François Bayrou et Elisabeth Borne ont annoncé que des mesures de reconquête de l'écrit étaient en préparation. Patricia Mirallès, la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, présidait ce vendredi la cérémonie de réouverture de la nécropole nationale du Tata sénégalais à Chasselet, près de Lyon, dans le centre-est de la France. Il s'agit d'un cimetière militaire de la Seconde Guerre mondiale où reposent près de 200 combattants africains massacrés par l'armée allemande en juin 1940. Cette nécropole avait été profanée en janvier dernier, d'où sa réouverture aujourd'hui. L'occasion pour Armelle Mabon, historienne, de dénoncer ce qu'elle considère comme une supercherie mémorielle. En cause, les noms qui figurent sur certaines plaques commémoratives de ces soldats. Explication Sylvie Coffy.
Il y a 3 ans, la ministre déléguée auprès des armées inaugure 2 plaques pour rendre hommage au 25e régiment des tirailleurs sénégalais, ceux qui ont versé leur sang pour libérer la France occupée par les Allemands. Sur ces 2 plaques, 25 noms de tirailleurs sont inscrits. Ils sont présentés comme disparus ou non identifiés et inhumés au sein de cette nécropole. Ce sont des recherches génétiques qui permettent d'identifier ces soldats. L'historienne Armelle Mabon mène l'enquête, saisit le tribunal administratif et découvre que ces recherches génétiques n'ont jamais existé, ce que le ministre sera contraint d'avouer. Armelle Mabon dénonce une supercherie mémorielle.
Ils ont fait ça pour 14 d'entre eux, où ils ont modifié les noms sans passer par la voie normale, réglementaire du procureur de la République qui doit d'abord faire modifier l'acte de décès et après on peut mettre le nom, il faut que le nom soit identique entre l'acte de décès et le nom sur la plaque. Ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on a du mal même à retrouver les dossiers de ces tirailleurs sénégalais puisqu'ils ont modifié les noms. Pour la mémoire de ces hommes morts pour la France, on ne peut pas quand même faire ce genre de choses.
L'historienne demande donc qu'on mette des plaques qui soient conformes au nom de ces soldats.
Sylvie Coffy, RFI 23h12 à Paris, 1h12 à Jérusalem.
24 heures en France, la culture.
Nous avons maintenant rendez-vous avec Dror Mishani. Cet écrivain et traducteur israélien a tenu dès le 7 octobre 2023, c'est-à-dire dès l'attaque du Hamas en Israël, un journal de son quotidien dans le pays. Ce texte, traduit en français, vient de paraître sous le titre « Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre ». C'est un témoignage pacifiste dans lequel l'auteur milite pour la fin de la guerre israélo-palestinienne. Dror Mishani répond aux questions de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Dror Mishani.
Bonjour Catherine.
Comment allez-vous ?
Bon, maintenant assez bien parce que je suis à Paris, mais normalement pas très bien. C'est vrai que la guerre a commencé il y a presque 1 an et demi, mais moi je me sens qu'on y est pour longtemps. Et peut-être même que le pire est devant nous.
D'octobre 2023 à avril 2024, vous avez donc tenu ce journal d'écrivain suite à la demande d'un journal suisse d'abord et puis de votre éditrice allemande. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'écrire ce journal, Dror Mishani ?
Je ne savais pas ça à l'époque, mais en fait, ce journal m'a vraiment sauvé. Parce que après le 7 octobre, j'ai arrêté, bien sûr, d'écrire un roman. J'étais en train d'écrire un roman, mais j'ai arrêté complètement. Et dans les premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, j'ai fait rien à part de regarder les nouvelles, de sombrer dans la dépression. Et le journal m'a permis, en quelque sorte, un recul vis-à-vis de la guerre, parce qu'il y avait 1 heure ou 2 heures par jour où j'étais enfermé dans ma bibliothèque, qui est aussi ma chambre forte, avec les livres que j'ai lus à l'époque et qui m'ont aidé. Et donc c'était vraiment ce journal qui m'a sauvé, et je crois que c'est pour cela que j'ai décidé de le faire.
C'est donc ici le quotidien d'un Israélien qui vit à Tel Aviv, d'un époux, vous êtes marié avec une catholique polonaise, d'un père de famille et d'un écrivain. Mais avant tout, j'ai envie de dire d'un homme pacifiste. Parce que dès le début, vous avez écrit cet article très engagé, dont, si vous me permettez, j'aimerais lire cet extrait. « Ne pas raser, ne pas écraser, ne pas se venger, Peut-être faut-il reconnaître la puissance du coup qui nous a été porté et la profondeur de notre douleur, reconnaître la défaite. Comment est-ce que ce texte a-t-il été accueilli, Dror Michani ?
Quand je l'ai publié, c'était 9 octobre ou 10 octobre. C'était publié à Haaretz. Donc Haaretz, déjà, est un journal de gauche. Mais la plupart de lecteurs ont cru que j'étais fou ou naïf, que la guerre était obligatoire à ces moments-là. Mais maintenant, quand je lis cet article, je suis sûr qu'on ne devait pas aller à la guerre. Parce que nous faisons les négociations avec le Hamas pour relâcher les otages, ce qu'on pourrait faire il y a un an et demi. Et ce qu'on a fait, entre-temps, était de détruire Gaza. Ça, c'est pas une victoire pour moi. Et est-ce qu'on a effacé notre douleur? Non, je crois pas. Alors je crois que la guerre a vraiment rien fait, à part de milliers de morts palestiniens et israéliens aussi.
Merci beaucoup.
Merci Catherine.
Dror Michani, je rappelle donc le titre de ce livre, « Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre ».
Dror Michani avec Catherine Fruchon-Toussaint. Et vous pouvez entendre l'intégralité de cette rencontre dans le magazine Littérature sans frontières de ce vendredi. Alors, c'était cet après-midi, mais évidemment, il y a le podcast à retrouver sur notre site www.rfi.fr. On va maintenant au théâtre. Et si avec Dror Michani, on avait affaire à une prise de parole, la pièce à laquelle on va s'intéresser maintenant s'appelle au contraire Terre. La metteuse en scène Tamara El Saadi s'y penche sur l'enfance sacrifiée sur l'autel des puissants. Ça se passe en France. Deux héroïnes traversent le récit. Antigone, la rebelle bien connue du théâtre grec antique, se retrouve face à une enfant placée en famille d'accueil. Dans le cadre d'une grande tournée, la pièce se joue en ce moment au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis en région parisienne. Reportage Muel Malouf.
Enfant, infant, en latin, signifie celui qui ne parle pas. C'est par cette phrase que s'ouvre la pièce Terre de Tamara El Saadi sur l'enfance.
La question de la voix de l'enfant qu'on n'entend pas, qui est inaudible, m'a toujours un peu obsédée. La question des silences au théâtre et en soi est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais notamment de l'endroit de l'écoute de l'enfant et aussi de comment on silencie l'enfant. Et quelles sont les conséquences sur l'humanité ?
Deux héroïnes se font face dans la pièce. Eden, une enfant placée, ballottée d'un endroit à l'autre, au gré d'une administration absurde, crie et se débat. Antigone est muette. Son silence est aussi grand que la tyrannie du roi Créon, qui veut l'empêcher d'enterrer son frère Polynice.
Antigone, c'est un personnage qui m'accompagne depuis que je suis adolescente. J'avais l'impression que je la comprenais, quoi. Puis il s'avère qu'elle est restée à nos 14 ans et que moi j'ai grandi. Donc je la regarde maintenant avec mes yeux d'adulte et forcément j'ai plus le même regard sur elle. Et la démarche était de un peu questionner les perceptions de la jeunesse d'aujourd'hui sur cette figure-là. Et notamment des jeunesses qui sont victimes de ségrégation et d'oppression, à la fois sur le sol français mais initialement aussi dans les seuls territoires occupés et victimes de colonialisme de l'ère contemporaine, à savoir la Palestine.
Quand ils sont venus prendre ma maison et qu'ils m'ont chassé de Thèbes, j'ai caché la clé. Demain, j'ouvrirai la porte et on rattrapera le temps perdu. On me fait porter la culpabilité d'une histoire qui n'est pas la mienne.
Ainsi, la tragédie d'Antigone est traversée par celle actuelle de la Palestine et de ses enfants massacrés. Et quand les mots lui manquent, Tamara El Saadi fait appel à la danse.
Le corps et le silence des corps, leur mouvement en fait est capable de traduire bien plus que les mots. D'où cette nécessité de travailler avec Sonia Al-Kadir, qui est la chorégraphe avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. On travaille ensemble et je dis voilà, en fait sur cette scène-là, ce que j'ai besoin de raconter sur ça, ben en fait, j'ai pas les mots, mais toi, tu vas avoir les gestes. Alors, aide-moi. Et c'est comme ça qu'on travaille.
La danse, mais aussi la musique est très présente. Et le chant se mêle au jeu des acteurs, se réduisant parfois à un mot, comme Biladi, mon pays, scandé à l'infini, telle une prière.
Biladi, Biladi, Biladi. Biladi, biladi, biladi.
La pièce Terre se joue au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis jusqu'au 6 avril. Et à la une du journal de l'Outre-mer, Manuel Valls, qui se rend en Nouvelle-Calédonie pour la seconde fois en un mois. Serge Massot, bonsoir.
Bonsoir. Le ministre d'État en charge des Outre-mer, Manuel Valls, arrive ce samedi à Nouméa, 4 jours en Nouvelle-Calédonie, pour entamer des négociations politiques entre indépendantistes et anti-indépendantistes. Charlotte Manvi de Calédonie la Première.
Négocier et encore négocier, c'est le mot d'ordre de cette visite qui sera quasi entièrement consacrée à la suite des discussions entamées fin février. D'ailleurs, le ministre ne quittera même pas Nouméa. Aucun déplacement aux îles ou dans le Nord n'est inscrit à son agenda. Les négociations qui se dérouleront au Haut Commissariat commenceront samedi à 14h pour reprendre le lendemain dimanche 8h et la pause dominicale sera studieuse puisque le ministre déjeunera avec les maires de Nouvelle-Calédonie qui, on le sait, souhaitent dans leur grande majorité voir le rôle des communes renforcé dans le futur schéma institutionnel du territoire. L'après-midi sera encore consacré aux discussions. Lundi, les travaux reprendront au milieu de matinée. Le temps pour Manuel Valls d'aller à la rencontre de la jeunesse lors d'une rapide visite au lycée La Pérouse. Idem mardi où le ministre des Outre-mer rencontrera les forces armées de Nouvelle-Calédonie avant de se rendre au Haut Commissariat pour la reprise de la dernière journée de négociation. Ce sera à partir de 9h30 mardi. Son départ est prévu mardi vers 22h.
C'était un leader charismatique, un bâtisseur infatigable. Les hommages pleuvent après la mort de Michel Fontaine, maire depuis 2001 de la commune de Saint-Pierre sur l'île de la Réunion. Cyril Melchior, le président du département Réunion.
Michel Fontaine était un ardent défenseur de la départementalisation. Tout le monde le sait, il était gaulliste depuis son plus jeune âge. Il était un leader et il n'avait pas besoin de se forcer. C'était un homme d'une grande discrétion qui était un moteur, une locomotive. C'est une grande perte pour l'ensemble de la famille politique au sens large du terme ici à La Réunion et bien évidemment pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de droite, du centre. Mais Michel Fontaine laisse un bel héritage que nous allons cultiver ensemble.
C'était ce vendredi la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, une maladie gynécologique chronique qui toucherait près d'une femme sur 10 en France. Des tests salivaires pour dépister la maladie vont être mis à disposition gratuitement dans 20 centres hospitaliers, dont celui de La Réunion. Pauline Cuzin, sage-femme et coordinatrice de la filière réunionnaise de l'endométriose.
Ce dispositif de l'endotest, il est aujourd'hui inclus dans une étude qui s'appelle EndoBest, qui est menée par le laboratoire de biotechnologie et qui en fait, c'est l'étude qui aujourd'hui est déployée dans une centaine de centres principaux et une quarantaine en liste complémentaire et que du coup cette étude, elle est en train d'être déployée sur la centaine de centres et que ça prend forcément du temps puisque c'est une entreprise qui déploie sur l'ensemble des centres. Donc déployer sur une centaine de centres, c'est un travail pharaonique. Et donc du coup, c'est en train de se faire sur La Réunion. Actuellement, en liste principale, nous avons le CHU qui est en train de déployer donc sur son site nord et son site sud. Et nous avons certains établissements qui ont fait la demande pour être en liste complémentaire.
Des propos recueillis par Antoine Garnier de Réunion la Première. Et puis en Guadeloupe, des élèves du lycée hôtelier du Gosier ont installé un restaurant éphémère dans les locaux du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Pointe-à-Pitre. Reportage de Peggy Robert de Guadeloupe la Première.
On se croirait dans la cuisine d'un grand restaurant. Une vingtaine de lycéens s'agitent en tous sens dans les petits locaux de l'association Maison Saint-Vincent en plein cœur de Pointe-à-Pitre. Emma, Christy, Gabriel, Alexandre et Jalen sont élèves de première au lycée hôtelier de Gosier et ils ont bien conscience que cette expérience est unique pour eux.
Je trouve que c'est une opportunité de développer certaines compétences sociales qui changent d'ordinaire du cadre habituel où nous sommes habitués à être en restaurant avec une certaine clientèle qui ne varie pas souvent.
Pour une fois, les usagers de l'association sont attablés et déjeunent ensemble.
C'est agréable, ça doit être agréable pour tout le monde.
C'est le lycée hôtelier enfin, qui nous propose ça, donc c'est bien quoi.
Pantalon noir, chemise blanche, gilet bleu ciel assorti à la cravate pour les serveurs. Les élèves sont impeccables sous l'œil exigeant de leur professeur de cuisine, Émile Promeneur.
Je leur ai posé une question, qu'est-ce que je peux faire dans mon métier plus tard pour aider mon pays ? Et on est arrivé sur le projet.
Les convives sont très touchés par l'attention que leur portent les lycéens.
Ils se donnent la peine de préparer en amont pour nous et de venir nous servir. Ils auraient pu être ailleurs, donc on ne peut qu'être reconnaissant pour ça.
Et c'est la fin de ce journal. Bonne soirée sur RFI.
Merci Serge Massot. Bonne soirée, bon week-end.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Le Conseil Santé se penche aujourd'hui sur les agressions verbales. Avec cette question, comment y réagir? Une question que pose Chantal Leroux à son invité. Et vous allez voir, il y a tout un processus.
Docteur Jérôme Palazzolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, professeur des universités en psychologie clinique et médicale et vous venez de publier le livre « Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité » chez Odile Jacob. Docteur Palazzolo, quelle est la meilleure façon de réagir face à une agression verbale, face à quelqu'un qui vous insulte, vous agonie d'injures ou tente de vous humilier?
Eh bien en fait, la réaction se fait en trois temps, c'est-à-dire en premier temps, c'est déjà essayer de se centrer sur soi, essayer de voir comment soi-même on réagit, parce qu'on a tendance à réagir de la même manière. Si vous avez quelqu'un qui vous agresse, ben vous avez tendance, vous, à être agressive aussi. C'est ce qu'on appelle le système de neurones miroirs en neurosciences. Donc première chose, c'est d'essayer de voir comment soi-même on va réagir. Est-ce qu'on est tendu? Est-ce que le souffle s'accélère? Est-ce que le cœur s'accélère? Est-ce qu'on serre les poings, etc. Deuxième chose, c'est d'essayer d'évaluer la personne qui vous agresse. C'est-à-dire d'essayer de voir en quoi cette personne est en droit de vous agresser. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui lui a posé problème? Est-ce que vous avez dit quelque chose qui lui a fait de la peine? Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle vous agresse simplement pour être entendue, par exemple? Et puis, troisième temps, c'est d'essayer d'évaluer la relation. Est-ce que c'est une relation problématique? Est-ce qu'il y a danger pour vous? Est-ce que l'autre cherche à prendre l'ascendant pour vous? Et en fonction de ces trois analyses, eh ben, d'essayer de donner la réponse la plus adaptée possible.
Mais quand on se fait agresser verbalement, tout va très vite. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de suivre ces trois étapes?
Et c'est l'objectif, c'est-à-dire que ces étapes, ben, elles prennent plus de temps à expliquer qu'à réaliser. C'est ce que j'explique un peu dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a différentes techniques qui peuvent être mises en place dans l'immédiateté. C'est vraiment ce que les anglo-saxons appellent le stop, think and go. C'est-à-dire que lorsqu'on sent qu'on n'est pas bien, que ça va pas, qu'on se sent agressé, ben, dans la tête, on se dit stop. Think, on analyse, on essaye de voir comment on l'évoquait, comment on se sent, comment l'autre se comporte. Et puis go, à ce moment-là, on envoie la réponse. Et l'objectif, c'est que ça se fasse vraiment en quelques secondes.
Merci beaucoup, docteur Palazzolo. Tout à l'heure, question de femme dans Priorité Santé. Aujourd'hui, l'endométriose, avec au micro Laurence Garcia.
Et c'est à 1h10, temps universel. Merci Chantal Leroux. On part maintenant à la Bourse de New York. La bourse avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones succombe à l'inquiétude générale, plonge de 716 points et termine la semaine à 41 584. L'indice du Nasdaq, en décrochant de 481 points, clôture à 17 323. Les nouvelles de la conjoncture américaine aujourd'hui sont mitigées. Or, dans le contexte de forte anxiété, à quelques jours de l'annonce par le président Trump d'une nouvelle série de droits de douane frappant la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis, des nouvelles mitigées passent pour de mauvaises nouvelles. On apprend que les dépenses de consommation des Américains en février ont rebondi nettement par rapport à janvier, un gain de 0,4% qui fait suite à une chute de 0,3% en janvier. On apprend par ailleurs la hausse de 0,4% du noyau de l'inflation en février aux États-Unis, selon l'indice des dépenses personnelles de consommation. L'indice lui-même, toutes catégories confondues, augmente de 0,3%, ce qui porte l'inflation aux États-Unis sur les 12 derniers mois à 2,5%, un chiffre qui reste élevé, d'autant que l'on redoute une réaccélération de l'inflation au cours des prochaines semaines en raison de la multiplication de droits de douane. Le rendement du T-bond à 10 ans, malgré cela, retombe à 4,26 car les capitaux fuient les actions, en partie pour se placer en obligation. Le baril de pétrole américain retombe à un peu plus de 69$ et l'euro remonte à 1,0826. L'or poursuit son envolée, ce qui est un signe de plus de l'inquiétude des investisseurs. L'once de métal fin sur le COMEX atteint un record à plus de 3113$, son 18e record cette année. L'indice Dow Jones perd 1,7%, le Nasdaq chute de 2,7%.
Merci Pierre-Yves Dugas. Fin de 24 heures en France. Merci à Olivier Roux à la réalisation, Mickaël Ponge à la rédaction en chef. Dans quelques instants, Afrique Soir. Avant cela, un mot de sport. En foot, en Ligue 1, Strasbourg domine Lyon 4-2 et grimpe au 5e rang du classement. Et puis au championnat du monde de snowboard cross à Saint-Moritz en Suisse, les Français récupèrent l'argent pour Loan Bozzolo et le bronze pour Julia Pereira de Souza.